Il est 10h20, c'est la première, c'est QFD, Adrien Zerbini, les algorithmes à présent. On a en gros une bonne dizaine de minutes pour répondre à cette question toute simple. Qu'est-ce qu'un algorithme?
Bah oui, c'est vrai, on parle en ce moment énormément des algorithmes, hein, ceux qui auraient favorisé Trump, qui désormais donc est président des États-Unis, c'est officiel. On parle de ceux qui sont capables de tout savoir sur vous, ceux qui demain ou qui déjà aujourd'hui permettront de faire de la criminologie prédictive, c'est-à-dire d'arrêter un assassin avant qu'il ne commette un crime. Oui, mais alors qu'on utilise sans cesse cette notion d'algorithme, on ignore souvent d'où elle sort et ce qu'elle recouvre réellement.
Les algorithmes, bonjour Rachid Gheraoui.
Bonjour.
Voilà, bonjour professeur, vous êtes là, on est d'accord,
vous n'êtes pas
un algorithme, vous êtes vrai, fait de chair et d'os et on aime ça encore aujourd'hui, notamment ici dans CQFD. Professeur à la faculté d'informatique et communication de l'EPFL, à quand remonte cette notion justement d'algorithme?
Alors la notion remonte à la nuit des temps, alors remonte à nos premiers ancêtres. Alors probablement pas Luca dont vous allez entendre parler dans quelques instants, mais je pense les premiers sapiens qui ont essayé de faire des calculs ont dû inventer des techniques pour simplifier leurs calculs. Je prends un exemple très simple. Imaginez que l'on veuille rajouter, additionner deux grands nombres, des milliers. Ce qu'on nous a appris à faire à l'école et ce qu'on fait aujourd'hui quand on n'a pas de calculette, c'est qu'on les met l'un au-dessus de l'autre, on part à la colonne de droite. On additionne le premier chiffre au deuxième chiffre en dessous. Si c'est inférieur à 10, on écrit le chiffre, on passe à la colonne à côté. Si c'est supérieur à 10, on écrit le chiffre à droite du 10 et on retient 1 et on continue. On fait ça de manière automatique, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas.
Ouais.
Et ce qu'il faut remarquer ici, c'est que quelqu'un a eu cette idée de nous expliquer que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et depuis, cette personne, on fait exactement la même chose de manière automatique. Alors cette technique-là remonte à la nuit des temps. Et on n'appelait pas ça un algorithme. Aujourd'hui, on dirait un algorithme. Alors, on dit que c'est un algorithme depuis le 9e siècle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au 9e siècle? Eh bien, un grand calife, alors celui des mille et une nuits, à Bagdad, a créé ce qu'on appelait à l'époque la maison du savoir. Donc, il a rassemblé un ensemble de bouquins. Et quand il est mort, son fils s'est allé plus loin, qui est devenu calife à la place du calife. Il a créé l'EPFL de l'époque, c'est-à-dire qu'il a invité un ensemble de scientifiques du monde entier, enfin des civilisations de l'époque, et en leur demandant d'enseigner. Alors parmi eux, il y avait un mathématicien dont le travail consistait à rassembler toutes les techniques, un peu comme l'addition dont je viens de vous parler, mais d'autres techniques plus compliquées, résolution d'une équation du second degré, où on calcule delta égale b carré moins 4ac, pour ceux qui s'en rappellent.
Mmh.
Et il a fait ça dans un gros livre, enfin dans un livre avec plein de formules. Et ce mathématicien-là s'appelait Algorithmi. Et depuis ce mathématicien-là, les gens s'inspirent de sa manière de ramener un calcul complexe à des calculs simples, et appelle ça des algorithmes.
Alors à l'époque où moi j'étais à l'école primaire, ça fait donc extrêmement longtemps, on faisait des maths modernes, dans le canton de Vaud ça a changé à peu près 60 000 fois, et à l'époque on avait ce qu'on appelait des machines, c'est-à-dire qu'il y avait toute une série de chiffres, et puis il y avait une machine qui disait par exemple x5 divisé par 2, et on devait passer les chiffres de l'autre côté en passant par la machine, ça c'est purement un algorithme?
Absolument, c'est un algorithme. Donc le but, rappelez-vous, c'est de pouvoir exécuter des choses compliquées de manière très simple, tellement simple que même quelqu'un d'idiot, y compris une machine, peut les exécuter. Et donc l'algorithme est exécuté par cette machine qui ne comprend rien dans la division, mais qui est câblée pour faire ça plusieurs fois.
Et puis il y a cette notion aussi d'algèbre, puisqu'on est dans l'âge d'or de la science arabe. Algèbre, c'est aussi un concept du même genre, c'est-à-dire qu'avec des équations, et puis on fait varier les x, les y pour refaire toujours la même chose.
Absolument. Donc le bouquin dont je vous ai parlé, qui rassemblait tous ces algorithmes de l'époque, s'appelait l'algèbre. C'était l'invention de la notion d'algèbre.
Alors, peut-être que certains de nos auditeurs n'ont pas des souvenirs très agréables liés à l'algèbre. Pourtant, on pratique un peu ça tous les jours, notamment dans une recette de cuisine, par exemple. Si on a une recette pour 4 personnes, mais qu'on doit l'adapter pour 6, 8 ou 2, ben on doit faire de l'algèbre.
Alors, absolument. L'analogie entre l'algorithme et la recette de cuisine est intéressante. Modulo deux petites précisions. Alors, quand on vous donne une recette, par exemple... Bon, j'ai vu ça ce matin, un pâté vaudois pour 4 personnes, 1 kg de poireaux, 2 fois 400 g de saucisses.
Ouais.
Quand on veut le faire pour 10, il faut qu'on extrapole nous-mêmes. La machine, elle, ne sait pas extrapoler. Donc, il faut qu'on lui dise pâté vaudois pour X, X fois tant pour la saucisse, X fois tant pour le kilo de poireaux, pour le poireau, etc. Pareil pour la recette du pâté vaudois, on dit il faut mettre du thym à la fin. Et laisser reposer et mettre du thym. La machine ne sait pas ce que c'est que laisser reposer. Elle risque de laisser reposer 3 mois ou de mettre 3 kilos de thym. Donc il faut être extrêmement précis. Donc si on imagine une recette à quelqu'un qui ne sait pas du tout cuisiner, Alors on peut faire le parallèle avec entre la recette et l'algorithme.
C'est-à-dire aucune ambiguïté dans l'algorithme, c'est ce que vous voulez dire. C'est qu'en fait un algorithme doit être extrêmement rigoureux et précis.
Absolument.
Mais qu'après il peut déduire...
Il peut appliquer la recette à un très grand nombre de personnes comme à une seule personne sans se poser de questions métaphysiques.
Et alors quand on arrive dans nos ordinateurs à nous, parce que là on a évoqué notamment l'histoire de l'algorithme, ces recettes de cuisine, et l'ordinateur qui est donc truffé d'algorithmes, et ça s'exprime de quelle manière ?
Alors l'ordinateur truffé d'algorithmes, en fait il faut revenir à 1936 pour que cette notion de truffé d'algorithmes voit le jour. Avant, il y avait une machine égale un algorithme. La machine dont vient nous parler Adrien, c'est exactement ça. Il y a eu d'autres exemples comme ça, comme Pascal qui a fait une machine pour son père qui faisait de la comptabilité. Elle ne faisait que de la comptabilité.
La fameuse Pascaline.
En 1936, un mathématicien, Alan Turing, dont certains ont peut-être vu le film, The Imitation Game, a eu cette idée fantastique, avec un papier et un crayon, de décrire un mécanisme simple qui permettrait d'exécuter n'importe quel algorithme. Et alors, encore une fois, ce qui est extraordinaire, c'est que c'était juste une feuille et un crayon. Et sa machine ressemble à une feuille et un crayon dans laquelle, en haut, on écrirait les étapes par lesquelles il faut passer. Et puis, en bas, on ferait les calculs. Et cette machine-là, très abstraite, parce qu'elle n'existait pas vraiment mécaniquement à l'époque, est l'ancêtre de tous nos ordinateurs d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une machine universelle. On peut écrire l'algorithme comme une donnée et la machine va exécuter cet algorithme-là.
Donc Alan Turing, celui qui donc entre autres a cassé le fameux code Enigma des nazis, donc ça c'était le film dont vous parliez, Imitation Game, a inventé en théorie ce qui deviendra un ordinateur et ce qui est aujourd'hui, tous les ordinateurs d'aujourd'hui sont cette machine.
Exactement, tous les ordinateurs d'aujourd'hui s'inspirent de cette machine et il faut encore une fois remarquer la puissance de cette invention parce que sans cette invention-là, aujourd'hui on irait dans un magasin demander un ordinateur pour faire des calculs, des soustractions, un autre pour aller sur Internet, un troisième pour écouter de la musique. La machine universelle de Turing nous permet de tout mettre dans une seule machine et c'est donc ce qu'on a aujourd'hui dans nos ordinateurs.
Voilà, alors ça c'est ce qu'il y a dans nos ordinateurs et maintenant quand on voit et quand on commence à fantasmer la manière dont nos ordinateurs peuvent travailler à notre insu parfois, alors, notamment je pense à Facebook ou à Google, on entend dire que les algorithmes nous pissent, nous tracent, nous influencent et finalement changent un peu nos vies. Qu'en est-il ?
Alors si on prend l'exemple de Facebook dont vous venez de parler, il faut bien voir que quand vous avez un certain nombre d'amis sur Facebook, la machine de Facebook, l'algorithme de Facebook ne vous affiche pas tous les posts de vos amis. Parce que sinon, ça saturerait votre fil d'actualité. Ce que fait Facebook, c'est qu'il en sélectionne quelques-uns de ces posts et il les sélectionne de manière à ce que la probabilité que vous les aimiez soit très grande. Facebook veut vous faire plaisir pour que vous restiez connecté, pour pouvoir vous vendre la pub. Donc il va aller prendre ceux de personnes dont vous avez aimé les posts auparavant. Donc il va quelque part vous conforter dans l'idée que c'est ça que vous allez voir, que vous allez aimer, etc. Donc plus vous faites de likes sur un post de quelqu'un, plus vous aurez des posts de cette personne. Ça, c'est l'idée de base de l'algorithme sous-jacent à Facebook qu'on appelle Age Rank.
Mais il y en a d'autres. C'est un algorithme un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il va aussi voir quand est-ce que ça a été publié. Il y a trois paramètres, je crois, essentiels dans ce.
Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a une notion du temps. Plus c'est ancien, moins ça va apparaître. Il y a d'autres notions de poids. Quand c'est une image ou une vidéo, ça aura plus de poids. Donc effectivement, il y a plusieurs paramètres. Mais l'idée, c'est de vous faire plaisir.
Sarah.
Oui, mais je me demandais justement quand on un algorithme, est-ce que c'est un code?
Oui,
c'est ça.
C'est ça.
Donc
c'est
d'abord, on doit coder, puis ensuite, en fonction du code, ça devient un algorithme.
Exactement. Il faut comme celui qui a eu la première idée de faire les additions de grands nombres en les ramenant à des additions de petits nombres, il faut trouver l'idée qu'on appelle aujourd'hui le code ou l'algorithme. Et puis on écrit ça dans une machine. Utilisant un langage particulier.
Alors, on comprend que l'algorithme de Facebook, puisqu'on est sur cet exemple, est fait d'une manière assez décidée pour nous faire plaisir à nous, utilisateurs. En quoi est-ce que ça va pouvoir changer le monde ? Certains considèrent que Facebook est en train de changer le monde.
Bon, il y a peut-être une partie fantasme, mais il y a aussi une autre partie qui est ce genre de médias, a tendance à conforter les idées qu'on avait sur les choses auparavant, bien entendu, puisqu'on ne voit que ce qu'on pense aimer, que Facebook pense qu'on va aimer. Alors, la manière avec laquelle ça peut changer ce monde-là en particulier, c'est que l'esprit critique disparaît puisqu'on ne voit jamais rien qui risque de nous déplaire et puis quand on le voit, ça nous met dans tous nos états parce qu'on n'a plus l'habitude de voir ça. Alors, si on compare ça avec un autre média, quand bien même le média est un média qu'on a tendance à aimer, il y a quand même des choses parfois qui nous déplaisent, qui nous forcent à réfléchir, etc. Alors que là, la réflexion est réduite à son strict minimum.
L'autre paramètre, c'est effectivement que ces algorithmes permettent aux géants de l'informatique d'avoir de plus d'informations sur nous, des informations qu'ils utilisent principalement dans un but commercial. Donc là encore, on peut se dire finalement, c'est pas très inquiétant, c'est que dans une vue commerciale qu'on prend des informations sur nous, mais vous ne le voyez pas tout à fait de cet œil.
Alors, encore une fois, détrompez-vous, les algorithmes sont quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, c'est clair qu'il y a des dangers. Si on reprend l'idée de conforter les gens dans leur opinion, ça permet de balancer aussi n'importe quoi et de le faire passer très vite à un grand nombre d'utilisateurs. Je prends l'exemple du pape qui aurait soi-disant soutenu Trump. Cette information est sortie. En 24 heures, elle a fait le tour du monde. Avant que le Vatican ne dise « Non, jamais, le pape n'a jamais dit ça, c'est trop tard ». Il y a tout un tas d'autres exemples.
Il y a 3% des gens qui vont entendre le démenti. Et
la plupart vont être confortés dans leur idée que le pape soutient Trump. Il y a plein d'autres exemples de ce genre.
Mm-hmm. Sarah ?
Oui, mais ça qu'on parle de peur, effectivement, face aux algorithmes, il y a une autre peur, Rachid Gheraoui. C'est-à-dire que vous savez, vous créez votre algorithme. Hein. Stéphane va créer son algorithme, vous le maîtrisez. On est d'accord. Lorsque vous mettez de nombreux algorithmes ensemble, est-ce que vous maîtrisez la communication entre ces différents codes, différents algorithmes ? La grande peur vient aussi de là.
Alors, c'est vrai, mais il faut vraiment dire qu'au jour d'aujourd'hui, on sait exactement, enfin, quand je dis on, c'est pas n'importe qui devant sa machine, mais on sait exactement ce que va produire un algorithme.
Quand bien même
ils sont mélangés, on arrive à prévoir ce qu'ils vont faire. Je dis bien au jour d'aujourd'hui. Alors peut-être que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle va amener des résultats qu'on ne connaît pas encore, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc souvent, c'est plutôt de l'ignorance que les gens n'ont pas tendance à ne pas comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on reçoit exactement ce qu'on aime, plutôt que des algorithmes qui sont en train de faire des choses malicieuses à notre insu.
Et faut-il avoir peur finalement des algorithmes ou dans le fond comment se prémunir de se faire enfermer par exemple par Facebook pour reprendre cet exemple toujours dans les mêmes idées, comment faire en sorte que je sois alimenté par d'autres idées qui constituent ce monde et que je ne m'obsède pas finalement dans un canal qui va petit à petit me renfermer.
Alors, avant de répondre à cette question, juste peut-être, encore une fois, souligner que les algorithmes nous permettent des choses extraordinaires dans tout un tas de domaines. Maintenant, faut-il en avoir peur ? Je pense qu'il faut avoir peur de notre ignorance. Tout comme on a réussi à développer une conscience écologique où on regarde la traçabilité du bœuf, d'où il vient, etc., il faudrait qu'on développe une conscience algorithmique en enseignant aux gens, ou en particulier à nos gamins, comment est-ce qu'il faut comprendre les réseaux sociaux. Il faut demander à Facebook de publier son algorithme, à Google de publier son algorithme et de laisser le consommateur, entre guillemets, averti, décide lui-même ce qu'il peut faire.
C'est-à-dire publier son algorithme, et ça s'exprimerait sous quelle forme ?
Il y a aujourd'hui des vidéos sur Internet qui expliquent l'algorithme de Facebook, qui expliquent l'algorithme de Google, l'algorithme réel.
Moi, je vais rien comprendre, moi.
Non, c'est pas très compliqué, en fait. Rappelez-vous que l'idée de l'algorithme, c'est de simplifier les choses tellement qu'une machine idiote puisse la comprendre. Donc, il n'y a aucun problème que vous le compreniez.
D'accord. Et à partir de là, l'idée, c'est que je puisse prendre un peu une distance par rapport à ça ou que je puisse modifier...
Alors, soit prendre une distance, soit aller vers le média, le réseau social qui publie un algorithme qui vous semble plus intéressant parce que de temps en temps, il va chercher une information ailleurs, etc.
Je peux juste ajouter un truc assez marrant parce que j'ai suivi une formation une fois de gestion des réseaux sociaux, notamment sur Twitter, et on nous disait, il faut absolument vous abonner à des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Et l'idée est toute simple, mais c'est très très bien parce que ça oblige à voir passer... Alors évidemment, sur Facebook, ça devient plus compliqué parce qu'il faudrait liker des gens qui disent des horreurs pour pouvoir continuer à voir ce qu'elles nous racontent. Oui. Mais l'idée est toute simple, notamment sur Twitter, c'est de s'abonner pas seulement à des gens avec qui on est d'accord intellectuellement, mais avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. C'est tout bête, mais
j'ai vu que vous étiez devenu ami avec Donald Trump, là,
c'est
ça
c'est cela, je like beaucoup.
Voilà. Merci beaucoup Rachid Gheraoui, donc professeur à la faculté d'informatique et communication de l'EPFL sur ces algorithmes. Et puis on peut vous renvoyer évidemment à ce grand jeu autour des données lancé par l'équipe d'On en parle, d'attaque, parce que dans les algorithmes, on peut imaginer qu'il y a toute une part de données, la manière dont on poste et ce qu'on fait de nos données. Puis à noter pour terminer que ce samedi 28 janvier, c'est la journée mondiale de la protection des données.